des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture, une émission que nous avons placée cette semaine sous le signe de la déraison, de la fantaisie, de l'acte d'écrire libérateur avec deux écrivains qui la pratiquent comme ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en lisant leurs deux derniers romans, Les Sept Mariages d'Edgar et Ludmilla de Jean-Christophe Ruffin chez Gallimard et Gare à Loup de Jean Tellet chez Julliard. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Christophe.
Et bonjour Jean Tellet.
Et bonjour Monsieur Christophe.
Jean-Christophe Ruffin, Les Sept Mariages d'Edgar et Ludmilla, donc paraissent chez Gallimard. Prix Goncourt 2001 avec Rouge Brésil, je le rappelle, hein, pour ceux qui l'ignoraient encore, je suis bien aimable. Un roman dans lequel nous faisons la connaissance d'un couple hors norme, marqué par l'exercice de la liberté. En tout cas, voilà, c'est plein de leçons. Et d'une certaine déraison aussi dans un roman cavalcadant, dont l'héroïne nous est présentée nue, dans un arbre en Ukraine, découverte ainsi au milieu des villageois, non seulement stupéfaits mais assez agressifs. Il lui lance des cailloux, découverte ainsi par celui qui va l'aimer, Edgar, assez mal accompagné lui lorsqu'il rencontre Ludmilla, puisqu'il voyage dans la Russie de Khrouchtchev dans une simka avec un autre couple et sa moitié, mais ils sont plutôt mal assortis, donc on se dit que ça ne va pas durer. Et surtout cette scène de première rencontre entre la jeune fille perchée dans un arbre et ce garçon, évidemment, va précipiter chimiquement, immédiatement d'ailleurs, dans une sorte de rencontre folle qui va durer toute une vie. Le programme est annoncé, 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, donc 7 divorces, enfin plutôt 6 divorces, hein, c'est ça?
Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a des séparations, et puis comme il n'aime pas faire les choses à moitié, en effet, il divorce, puis il se remarie. Voilà, donc c'est, en tout cas, c'est un amour sur une vie, quoi, mais voilà. Un amour à épisode.
Voilà. Un amour à épisode, un amour à péripéties qui vous sert aussi d'ailleurs de prétexte à nous raconter toute l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle. Vous nous parlez beaucoup à la fois du monde de la bibliophilie mais du monde des affaires. On parlera peut-être des hôtels détente que lance Edgar. Non, mais c'est vraiment aussi, il y a deux carrières en fait, il y a un amour, deux personnes, ouais. Une troisième personne qui est peut-être cet amour d'ailleurs, et puis deux carrières
avec
totalement flamboyantes,
vies, ouais,
cantatrice et puis homme d'affaires de chaque côté, alors qu'ils sont partis de rien.
Bah oui, ils ont chacun de vraies vies, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est si chaud, si tumultueux, c'est que leur séparation, leur retrouvaille, elles se font au fil de vie, et des vies pleines, si je puis dire, avec des hauts et des bas aussi, parce qu'ils perdent tout à un moment donné, ils montent très haut, et finalement, c'est pour ça que leur relation se transforme à mesure que leur vie change. Et ces vies, elles emportent en effet le siècle, quoi. C'est ça qui m'a amusé, c'est de revivre et de faire revivre ces 50 années qu'on a traversées et qui étaient quand même folles, quoi, entre fin des années 50 et jusqu'à aujourd'hui. Revenir sur tout ça, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu loin, mais il se trouve que nous, l'âge venant, moi je les ai vécues ces années-là, et de les revivre, de les retrouver dans leur folie et en même temps dans leur créativité extraordinaire, parce que c'est ces années-là qui ont accouché du monde d'aujourd'hui. Voilà, ça m'a fait plaisir.
Mais alors Jean-Christophe, 7, c'est pas un chiffre anodin, hein, puisque c'est pas 6, ni 8, ni 9 que vous avez choisi. 7, c'est à la fois les 7 nains, c'est les 7 merveilles du monde, c'est les 7 jours de la semaine. C'est un chiffre un peu magique, vous avez décidé de donner dans le merveilleux, Jean-Christophe Ruffin?
Non, c'est pas, il y a pas d'élément merveilleux, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils n'ont pas des pouvoirs surnaturels, ils se mettent pas à cracher de l'électricité ou à...
Enfin, c'est vous qui le dites, ça, métaphoriquement. Enfin, c'est branché.
C'est branché, perché, mais c'est pas... Ouais. Mais c'est vrai que c'est un conte, et cette histoire de 7, du chiffre 7, c'est le chiffre des contes, effectivement. D'ailleurs, le 7e retrouvaille, elle se fait, elle n'est pas réelle, elle se fait justement parce que lui aime bien ce chiffre, et que finalement, il se dit, à la fin du livre, quand ils vont, leur vie se termine, eh ben, il pense qu'il y aura peut-être un jour ailleurs une 7e rencontre, parce que c'est joli, voilà, parce que 7, c'est beau, et puis parce qu'ils espèrent ça. Oui, c'est un conte, mais c'est un conte sans... où le merveilleux est tiré de la mémoire et non pas du surnaturel. C'est-à-dire, il est tiré de justement de l'évocation de ce passé qu'on a finalement gardé, puis qui est merveilleusement poétique, parce que toutes ces années 60, 70, etc., et c'est pas Jean Tellet qui me contredira, puisqu'il a vécu cette aventure-là, elles sont merveilleuses.
Eh bien voilà, le merveilleux et la poésie, c'est deux mots qui pourraient tout à fait convenir à votre nouveau roman, Jean Tellet, Gare à loup, avec un point d'exclamation chez Julliard. On y fait la connaissance d'une gamine caractérisée par un... Alors elle a un pouvoir magique, hein. Elle crache pas l'électricité, mais elle pourrait, hein,
ouais,
si
ouais,
elle
ouais,
voulait.
Ouais.
Quand elle souhaite du mal à quelqu'un, ça se produit. Donc ça passe par faire tomber quelqu'un dans l'escalier sans le toucher, ou faire tomber les dents des gencives de quelqu'un qui lui a dit des choses pas terribles, transformer les roues de la Ferrari d'un pilote vaniteux en roues de bicyclette. Et cette compétence extraordinaire va intéresser l'état-major du pays dans lequel elle vit. Alors il n'est pas nommé, il n'est pas cité, ça m'a fait penser moi alors soit à la Corée du Nord... soit la Pologne du Père Ubu.
C'est rigolo, oui, oui. Mais souvent, les gens me disent où ils imaginent qu'il est, ce pays. Et moi, je l'imagine ailleurs, mais je le dis pas. Mais effectivement, j'avais envie que ça soit... On sait pas où. Et souvent, les gens parlent de Corée du Nord parce que le président du pays en question s'appelle Hannibal Chanchu, donc voilà. Et puis, ça se passe dans un futur qui est pas daté non plus.
Exactement. On sait que c'est le futur parce que c'est des tours énormes,
ouais,
y a, 200 étages.
Ouais, c'est ça, et des tours qu'on n'appelle plus des gratte-ciel mais des écorchocieux tellement ils sont hauts. Et la petite Lou avec sa mère habite dans la tour de l'incendie qui se trouve au bord de l'avenue du Bonheur. En face il y a le bar des Sanglots, et de temps en temps on sent des odeurs de fleurs d'orange, on dit tiens c'est le vent du sud, et puis la serveuse du bar des Sanglots a dit ah oui, ben, d'ailleurs arrive de la poussière de sable, on sent qu'il y a des dunes, des trucs comme ça qui s'approchent. On apprend que dans ce pays il n'y a plus de sources, il n'y a plus d'arbres, et que le pays va se fournir auprès d'un... Parce que aucun pays...
De l'air pur,
voilà,
d'air pur.
Il y a un endroit, un pays qui s'appelle l'archipel des mille cavernes et qui a des réserves souterraines d'air pur qui revendent aux autres pays. Enfin, on est dans ce monde-là, quoi.
Donc là, vous avez décidé d'ouvrir les vannes, parce que c'est vrai qu'il y a le Jean Tellet du Montespan, de Rainbow pour Rimbaud... De fleurs de tonnerre,
ouais, ouais.
Sur cette femme qui avait réellement existé,
ouais, ouais.
En Bretagne, qui empoisonnait. C'était des fêtes d'hiver ou des faits historiques distordus par votre imaginaire, mais là vous ouvrez les vannes de l'imaginaire,
oui.
Total.
Oui, parce que dans un roman historique ou des trucs comme ça, il faut vraiment pas se tromper. Si à un moment je dis que ce truc-là s'est passé le mercredi 12 avril 1517, il y a toujours un historien qui va dire mais qu'il est con et tout. On sait très bien que le 12 avril 1517 n'était pas un mercredi mais un vendredi. Enfin bon, donc. Et tandis que là, tout d'un coup, j'avais envie de faire ce que je veux, ça se passe pas en France, ça se passe pas maintenant, et je fais ce que je veux. Et ça fait du bien aussi et moi j'avais pas écrit de fiction depuis le magasin des suicides,
ouais.
qui racontait l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui avait une particularité, et là j'avais envie de faire le pendant féminin avec une petite gamine qui est cette Lou, quoi.
D'ailleurs il y a des échos avec le magasin des suicides. Vous avez mentionné le bar des Sanglots,
ouais.
Hein, qui se
ouais.
trouve en face de la tour de l'incendie, café où va s'approvisionner l'inspecteur Sodad, voilà, donc la mélancolie est là, et on y sert du chagrin noir, avec parfois un
voile de vagalame, voilà. On y sert des inconsolables, des peines de cœur, des choses comme ça. Et la serveuse est tatouée de larmes qui descendent au milieu des joues. Elle aborde les passants en leur disant deux verres d'Aragon. J'ai des sanglots, en voulez-vous? et voilà. Et j'avais envie d'embarquer les gens dans cet univers-là.
Voilà, merveilleux. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Je le disais en commençant, des raisons. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'idée, en tout cas dans ces deux romans. Vous avez la particularité, Jean-Christophe Ruffin et Jean Tellet, d'être des écrivains très très lus, hein. Le public est souvent en rendez-vous, respecté aussi, un peu foufou quand même, quand Jean-Christophe vous mettez à endosser l'habit d'un pèlerin, pour aller sur le chemin de Compostelle, ou vous, Jean Tollet, d'aller chercher dans l'histoire des épidémies oubliées où les gens dansent comme des fous, une sorte de peste dansante, ou des faits divers atroces. Je pense à Mangez-le, ouais, si vous voulez. Mais des récits qui sont quand même tenus, vous le disiez, soit par l'histoire, donc par une certaine bride historique. Pareil chez vous, Jean-Christophe, une idée de maîtrise quand même des mouvements. Là, j'ai l'impression que vous avez voulu un peu ruer dans les brancards. Alors, c'est intéressant, Jean-Christophe, parce que vous parliez un peu du passé. Voilà, on a connu ces années. Est-ce que c'est cette nostalgie, cette douleur du retour, suivant l'étymologie du mot, étymologie d'ailleurs fantaisiste, hein, pas du tout grec, postérieure en tout cas, qui vous a fait voilà, vouloir lâcher la bride? Vous disiez, c'est plus finalement un conte qu'un simple récit.
Oui, mais je reviens sur l'histoire du passé, parce que d'abord, je pense que écrire sur le passé lointain, un roman historique, disons un cadre historique, ou écrire sur un monde imaginaire, c'est la même chose. C'est Walter Scott qui, dans une de ses préfaces, disait ça à un moment donné. Moi, j'avais écrit aussi un roman comme ça d'anticipation qui s'appelait Globalia, et j'avais mis ça dans la postface, cette phrase de Walter Scott où il dit finalement, reconstruire un monde, qu'il soit passé ou qu'il soit dans l'avenir, c'est le même procédé finalement. Il s'agit de dire au lecteur de faire entrer le lecteur dans un monde où il n'a pas vécu. Voilà. Alors, la différence avec ce livre-là, Ludmilla et Edgar Ludmilla, c'est que c'est un passé qu'on a vécu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu. Ce qui fait une différence, parce que j'ai toujours un peu de malaise quand je lis un livre sur ces années-là, que j'ai vécu, écrit par quelqu'un qui ne les a pas vécues. Il les imagine, il les fantasme, vous voyez, mais il ne les a pas vécues. Donc, il y a toujours ce problème de savoir quand commence l'histoire, finalement. Est-ce que quelque chose qui s'est passé hier, est-ce que c'est déjà de l'histoire? Bon. Moi, je pense que l'histoire commence là où, effectivement, on n'a pas vécu les choses et où on les reconstruit. Parce que quand on les a vécues, c'est autre chose. En tout cas, pour l'écrivain, et probablement pour le lecteur aussi.
Vous en parliez en tant que lecteur, parce que vous disiez, quand je lis des choses où les épisodes n'ont pas été vécus, ça vous gêne? Pourquoi il faudrait qu'ils aient été expérimentés, labellisés, expérience vécue?
Non, ça, c'est pas que ça me gêne, c'est que je me dis qu'il parle d'autre chose en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous parlez d'un passé que vous n'avez pas vécu, bah, vous reconstruisez un monde finalement. Alors, et quand vous avez vécu cette période, vous dites, ouais, c'était pas vraiment comme ça. Parce que, vous voyez, donc là, on est dans un passé, pour ce livre-là, qui est un passé proche en fait. Et donc, on n'est pas du tout dans la question du roman historique. C'est beaucoup plus, j'ai beaucoup plus fait appel à la mémoire, ce qui donne une plus grande liberté d'ailleurs, parce que finalement cette mémoire, j'ai pas besoin justement, je veux pas me faire embêter par un historien ou autre qui va me dire c'était comme ci ou c'était comme ça, puisque de toute façon voilà, ce sont des souvenirs personnels. Parce que c'est vrai que quand vous écrivez dans l'histoire, alors l'histoire très ancienne et qui là vraiment est labellisée histoire, vous êtes toujours, comme le disait Jean Tollet, sous la surveillance quand même de gens dont c'est le métier.
Bah, Walter Scott, que vous citiez, a écrit sur des périodes qui n'étaient pas les siennes.
Absolument, absolument, mais à ce moment-là, vous êtes dans un exercice différent qui consiste à remettre un peu de liberté dans un espace qui est quand même assez balisé, parce que si vous parlez de Louis XIV, bon, on sait en gros tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait, etc. Donc, pour retrouver un espace imaginaire, c'est pas évident.
Ah, lui, il y arrive, Jean Tollet.
Oui, il y arrive, mais bien sûr qu'il y arrive, mais quand son Charles IX, etc., c'est dans les trous, si je puis dire, du personnage.
Mais c'est vrai.
Et dans une certaine limite aussi, parce que vous pouvez pas, à un moment donné, Charles IX, vous pouvez pas lui faire sortir un revolver ou un ticket de métro. Vous voyez, donc on est beaucoup plus contraint, finalement. Alors que là, dans ce passé récent, on a une grande liberté que celle des souvenirs.
Jean Tollet, vous souscrivez à l'analyse que portait Jean-Christophe Ruffin sur votre travail, finalement être obligé d'aller dans les trous avec une liberté un petit peu contrainte.
Bien sûr, ouais. Et dans les trous, alors là, hop, le romancier peut se glisser dedans, mais et tous les éléments confirmés historiquement, il faut les mettre. En tout cas, dans nos deux romans, on embarque les gens. Et moi, pratiquement, c'est ce que j'ai envie de dire, moi, de mon livre et de celui de Jean-Christophe, c'est ouvrez la première page, lisez-la. Et laissez-vous prendre par la main et on vous embarque dans un truc et tout, et vous n'êtes plus ici avec les problèmes, tout ça. moi, je donne de leçons à personne et chacun fait ce qu'il veut. C'est le grand intérêt d'être écrivain, finalement, le plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup d'écrivains ont mal aux genoux. Ils disent, putain, je vais faire un livre là-dessus. Normalement, ça devrait intéresser le monde entier. Sauf qu'on s'en branle, quoi. Et c'est bien de, je sais pas, comme de faire la fête aux gens. Comme quand on invite des gens à déjeuner ou à dîner, on a envie de leur faire plaisir. Et tous les deux, avec chacun de nos livres, on a envie de ça, de boire.
Mais précisément, Jean-Tolet, ce que vous nous dites, là, vous parlez de Gare à Loup ou du magasin des suicides, parce que quand vous écrivez le Montespan, quand vous écrivez Héloïse Houille sur Abélard et Héloïse, vous étiez quand même obligé de un minimum de vous adosser au réel ou en tout cas à la correspondance d'Héloïse et Abélard. C'est-à-dire que ce livre-là, il est né aussi d'une volonté de secouer encore plus. Vous en aviez assez justement de même quand c'est un petit peu adossé à l'histoire, déjà c'était trop.
Oui. Mais je pouvais prendre de la liberté dans Héloïse Houille, des trucs qu'on m'a un peu reproché parce que je lâchais les chevaux, quoi. Mais on sait que dans une lettre d'Abélard, une célèbre lettre qu'on appelle lettre à un ami, il dit avec Héloïse, on a fait tout ce que deux corps peuvent se faire. Ah, ils ont fait tout ce que deux corps peuvent se faire. Et ben alors, je vais y aller, quoi, et je vais raconter ce que je veux. Et c'est agréable aussi de faire ça. Mais là, j'avais envie. Ouais. Puis moi, le monde actuel. Moi, j'ai fait des livres bien sur le monde de maintenant, avec comme Darling, des trucs comme ça. Mais là, j'aime bien quitter l'époque où actuelle, et donc soit en me réfugiant, en me balançant dans le passé, ou bien dans l'avenir, et finalement, c'est un peu la même chose, et puis essayer de faire plaisir, quoi, voilà.
L'idée de fantaisie, Jean-Christophe Ruffin, est-ce que c'est une idée que vous pourriez revendiquer, en tout cas, pour ces sept mariages d'Edgar et Ludmilla?
Bah oui, mais même moi, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Jean-Tolet, c'est-à-dire le côté bien recevoir ses invités. C'est-à-dire que l'auteur, il reçoit des invités qui sont ses lecteurs, voilà. Et en effet, il leur fait plaisir. Ça veut pas dire qu'il les flatte, ça veut pas dire qu'il les... c'est pas de démagogie. C'est juste une espèce de politesse, d'abord qui consiste à faire en sorte qu'ils aient envie de tourner les pages et que ce soit pas, comment dirais-je, une sorte de pince-somme qu'on leur impose. En effet, quand on est dans un cadre historique, on parle du passé lointain, que les gens soient pas obligés d'arriver avec leur bouffe, mais qu'ils apprennent tout dans le livre, c'est-à-dire que vous pouvez lire un livre, je sais pas, sur le 15e, 16e siècle, peu importe, mais sans avoir d'abord potassé, vous voyez, votre livre d'histoire. Mais non, c'est le roman qui va vous donner toutes les clés, donc vous entrez comme ça, librement, etc. Et je pense que cette notion-là, elle est fondamentale, cette notion de presque de politesse, enfin, à l'égard du lecteur.
C'est-à-dire que vous pensez quelqu'un. Au lecteur, voilà.
Ah, beaucoup. Ouais, moi, j'écris, oui. Alors, c'est ça qui est compliqué parce que moi, j'ai le sentiment d'écrire pour quelqu'un, mais je sais pas qui, mais je sais que quelqu'un va me lire et que ce sera pas que pour moi, pour me faire plaisir, etc. Cette notion-là, je crois qu'elle est à la fois virtuelle, difficile à définir, presque impossible à définir, et pourtant, immédiatement sensible pour un lecteur. Et le lecteur reconnaît, c'est pour ça que vous disiez on a beaucoup de lecteurs tous les deux, parce que je pense qu'on fait partie de ces écrivains, peut-être même pas d'ailleurs, enfin je vais pas le dire pour Chantelet, mais je dis pour moi, qui sont pas forcément des écrivains, sans se revendiquent pas forcément des écrivains, moi j'en sais rien, si je suis un écrivain je m'en fous d'ailleurs. Je suis un raconteur d'histoire, quelqu'un qui va faire porter l'imaginaire du lecteur vers autre chose et dans un bonheur que j'espère lui donner.
Je suis absolument d'accord avec tout ça.
Mais alors justement, l'un et l'autre, écrivain, pourquoi le mot est trop pesant? Ce serait quoi un écrivain par rapport au raconteur d'histoire?
Vous savez bien que
je demande ça à deux écrivains.
Le titre d'écrivain n'est remis que par des comités extrêmement sérieux de gens dont on ne sait pas d'ailleurs qui ils sont ni quelle légitimité ils ont. Mais enfin, vous avez périodiquement, dans certaines émissions, pas la vôtre, des gens qui disent ce n'est pas un écrivain ou c'est un écrivain. Eh ben, je jure, on s'en fout, quoi. Moi, je ne sais pas si je suis un écrivain. Ça m'est égal. Ouais. Ça m'est égal. Et je pense qu'il n'y a qu'un seul jugement là-dessus. C'est le temps, finalement. Et c'est le public aussi. Voilà, c'est tout.
Jean Tolet, ouais, l'écrivain, alors c'est quoi? Est-ce que vous vous dites, je suis pas un écrivain, je suis un raconteur d'histoire?
Je dis écrivain parce que j'écris des livres, donc, et puis je trouve que c'est un joli mot, mais en même temps, je m'en fous un peu, ouais.
C'est un mot compliqué d'ailleurs, écrivain, parce que si on est lacanien, il y a le vin, l'écrit, vin. C'est-à-dire, oui, mais on sait pas ce que, voilà,
ouais.
Tout ça disparaître.
Ouais. Hein, ou... Non, c'est c'est faire plaisir et puis essayer de raconter des histoires et puis faire plaisir, c'est pas mal d'essayer de faire plaisir
mais
aux
gens.
Mais
vous pensez à vos lecteurs justement aussi quand vous écrivez, je parlais tout à l'heure, on en parlait en dehors de l'antenne, mais de cette langue un peu que vous inventez, on aura l'occasion d'y revenir, mais dans Gare à Loup, en jouant sur les sonorités, la syntaxe qui est parfois un peu bouleversée, vous vous dites tiens, ça, il va aimer ou elle va aimer ou vous avez un lecteur imaginaire ou
pas précis ouais. Mais je sais que j'ai l'impression de moi quand j'ai commencé un livre que j'écris une lettre à des amis justement comme si je vais te raconter une histoire et écrire une lettre à quelqu'un et essayer de l'écrire la mieux possible en essayant de pouvoir l'amuser, le surprendre, lui faire peur ou je sais pas quoi, mais voilà, et c'est pour ça que moi c'est peut-être pas le cas pour Jean-Christophe, mais je ne réponds jamais aux courriers que je reçois de lecteurs, jamais, parce que je leur dis mais moi je leur écris ce que j'ai à leur dire, en plus, au début, je répondais, alors, on reçoit une lettre, je réponds. Et puis, mais le problème, c'est que les gens, ils vous réécrivent après. Mmh, et puis, à la troisième fois, ils disent, je vais arrêter de lui répondre. Et alors, ils vous réécrivent pour vous engueuler. Oui, avant, vous étiez moins prétentieux. Donc, du coup, je réponds pas du tout. Et je les lis pas. Je fais comme Eric Satie, qui n'a jamais ouvert une lettre. Tout était sous son matelas. Mmh. Et quand on est arrivé chez lui après sa mort, on a vu que tout son courrier n'avait jamais été ouvert. Et j'aime bien ça.
Et vous répondez, Jean-Christophe ?
Je comprends tout à fait ce que dit Jean, parce que c'est vrai que c'est difficile. D'abord, parce que souvent, les gens vous écrivent des lettres très longues. Mmh. Et si vous répondez trois lignes, c'est ridicule. Vous n'avez pas le temps de répondre très longuement. Mmh. Et en effet, si vous deviez répondre complètement, vous écririez un livre et vous l'avez déjà fait. Donc, tout ça n'a pas beaucoup de sens. En même temps, il y a ce lien que je peux comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, l'écrivain, c'est peut-être un des seuls artistes qu'on rencontre. Vous voyez, on ne rencontre pas l'architecte d'un bâtiment quand on entre dedans, on ne rencontre pas le peintre en général quand on visite une exposition. L'écrivain, on peut le trouver dans des lieux comme ça, périodiquement, les salons du livre, etc. Puis il a une adresse, même si ce n'est pas la sienne, c'est celle de son éditeur. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose de touchant. Et effectivement, il faut arriver à répondre à ça sans se faire complètement bouffer, comme fait Amélie Nothomb, par exemple. Enfin, elle aime ça, mais tous les matins, elle a son
sac. Elle a un bureau pour faire ça.
Alors, elle, côté gourou, c'est-à-dire est-ce qu'il faut manger, pas manger, le fromage, il faut le laisser pourrir, tout. Moi, je ne sais pas faire ça. Et donc, en effet, je réponds de façon assez... Mais moi, je suis moins systématique. C'est-à-dire, je vois de temps en temps, et puis de temps en temps.
Ah oui, il peut y avoir une lettre particulièrement qui donne envie de répondre.
Mais je ne les lis même pas.
Ils sont terribles. Voilà. On poursuit avec vous, Jean Tellet, Jean-Christophe Ruffin. Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, c'est chez Gallimard. Et Gare à Loup, chez Julliard. On commence par vous, Jean-Christophe Ruffin. On écoute votre choix musical. Vous avez choisi l'air d'une belle divée de Madame Butterfly de Puccini, évidemment interprété par Maria Callas.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Oh,
La voix de Maria Callas dans Madame Butterfly, c'est l'acte 2, l'air d'une belle divée, c'est le choix de Jean-Christophe Ruffin qui publie les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla chez Gallimard. Il est avec Jean Tellet, Gare à Loup chez Julliard pour ce temps des écrivains. Bon, j'allais dire pourquoi ce choix musical. Ludmilla, moi je l'ai lu, elle est cantatrice, enfin pas au début, hein, au début elle est perchée dans son arbre, mais vous avez choisi, on parle aussi d'Onassis aussi, pourquoi choisir de nous faire écouter la Callas cet après-midi?
Parce qu'à travers les vies que l'un et l'autre de ces personnages vont avoir, ils vont au fond emprunter les habits de gens qu'on va reconnaître un petit peu. Et elle, au fond, bon, c'est pas la Callas, mais ça pourrait être Julia Michaels Johnson. C'est un peu plus ça, c'est-à-dire que c'est cette génération de divas, de cette génération de cantatrices qui vont être révélées par le cinéma. C'est-à-dire par la Callas, elle est plutôt révélée par la photo, par les reportages, etc. Puis surtout par sa vie en dehors, c'est-à-dire c'est cette vie tumultueuse, un peu scandaleuse, etc. Bon. Et voilà, donc il y a quelque chose qui fait que sur une partie de son existence, bon, ben, Ludmilla est une sorte de Callas. Alors pourquoi Callas? Parce que c'est l'icône absolue en matière de cantatrice. Il y en a d'autres, bien sûr, mais elle, là, on vient de la revoir en hologramme. Vous vous rendez compte? Elle est immortelle au sens vraiment propre, éternel.
Vous l'avez vue chanter? Vous êtes allé?
Ben non, j'aimerais. J'ai juste vu les
Non, mais en vrai, du temps de son vivant,
Non. Vous l'avez vu?
Non, j'aurais aimé. Ouais.
Alors maintenant,
c'est l'émission des regrets aujourd'hui.
Ben oui, parce que non, mais c'est quand même un phénomène. C'est un phénomène. Enfin, ça a toujours été un phénomène à la fois vocal. Bon, moi, j'y suis moyennement sensible parce que je suis pas très très mélomane.
Travailler en musique parfois, justement.
Non, j'ai horreur de ça. Ouais. Non. Moi, je suis pas du tout. Moi, la plupart du temps, quand mes héros ont une passion et un talent, c'est justement le talent que j'aurais aimé avoir, mais je suis incapable d'avoir. Mon premier livre, le personnage avait la main très verte, était un vrai botaniste. Il adorait les plantes, etc. Moi, vous me mettez une plante verte, au bout de 8 jours, elle est morte, quoi. Donc, mais j'aurais aimé ça. Et là, pareil, si je devais remettre les compteurs à zéro et repartir dans la vie, j'aimerais apprendre la musique, j'aimerais pouvoir la connaître, mais malheureusement, c'est pas le cas.
On écrit pour compenser.
Oui, on cherche ce qu'on n'a pas.
Alors, dans ces 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, Jean-Christophe Ruffin, on fait la connaissance, eh bien, d'Edgar et de Ludmilla et de leurs 7 mariages. Donc, un couple qui se rencontre en 1958 en Ukraine. Edgar est en voyage, plus ou moins journalistique, enfin très officiel, puisqu'il y a une sorte de guide agent du régime qui surveille, et en fait tout est programmé, hein, les rencontres sont programmées, censé être un reportage, mais tout est évidemment guidé. Puis en arrivant dans un petit village, donc il est avec un couple, hein, lui-même est accompagné, ils sont jeunes, pleins d'espoir, et dans un village d'Ukraine, eh bien il assiste à une scène totalement fantaisiste, un peu tragique aussi, une fille nue, dans un arbre, qui s'est débarrassé de tous ses vêtements et auquel les villageois lancent des pierres pour qu'elle redescende. Elle s'appelle Ludmilla. Il en tombe amoureux. C'est une scène de première rencontre assez inattendue que vous nous offrez. Et puis à partir de là, vous déroulez le fil de leur vie amoureuse puisque, et curieuse puisque ce couple a besoin pour s'aimer de se séparer, en fait, sans arrêt. C'est aussi une traversée de la deuxième partie du XXe siècle que vous nous offrez, Jean-Christophe Ruffin, puisqu'il va être question des années 80 avec le grand mouvement des entrepreneurs, puisque Ludmilla et Edgar vont eux-mêmes se développer, elle comme grande diva, cantatrice, lui comme homme d'affaires, un peu escroc aussi. Il y a ce mot « mariage » qui est présent dans le titre. Les 7 mariages, comme un titre de conte, vous en parliez tout à l'heure. En quoi était-ce important pour vous, dans ce livre, de parler d'amour et même de théoriser sur l'amour, puisque je vous cite notamment dans la postface, puisqu'il y a un narrateur qui enquête sur Ludmilla et Edgar, et qui dit qu'il voulait aussi, à travers cette histoire qu'il a racontée, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est juste le narrateur, qui souhaitait dépasser la vision binaire du couple, soit fusionnelle, soit déchirée. Pourquoi en fait prendre ce prisme de l'amour pour raconter le siècle ?
Alors, il y a plein de questions. D'abord, ce couple, moi, j'ai l'impression de l'avoir rencontré un peu par hasard dans un livre. La scène initiale que vous racontez, là, elle est tirée d'un livre qui était dans la bibliothèque de ma mère. C'est un des rares livres que ma mère m'a légué après sa mort, qui était un livre de Dominique Lapierre, vous savez, l'auteur de La Cité de la Joie, etc., Paris Brûle-t-il, qui avait écrit ce livre avec un photographe, Jean-Pierre Pedrazzini, qui était un grand photographe de Paris Match, et qui est mort peu de temps après, pendant l'insurrection de Budapest. Et tous les deux, ils avaient, avec leur copine de l'époque, traversé la Russie. Ils avaient été autorisés pour la première fois à rouler comme ça jusqu'à Moscou dans une bagnole en partant de Paris. Et ce livre qui s'appelle « Russie porte ouverte » était un des premiers témoignages assez subtil et assez honnête d'ailleurs. Ils avaient dû évidemment pas trop critiquer le régime et tout, mais enfin c'était quand même assez honnête à travers aussi bien les photos que le texte. C'est un livre extraordinairement politique, c'est un livre en noir et blanc.
Donc c'est là que vous avez pris la
Oui,
la
je les ai pris parce que alors effectivement bon, ils partent là dans cette voiture. C'est un peu un voyage un peu farfelu, etc. Pourquoi cette fille tout d'un coup dans un village?
C'était dans le livre.
Non,
aussi,
alors justement. Moi, je me suis dit que bon, si c'était l'histoire de leur copine, bon, très bien, ils partaient avec leur copine, c'est pas, il n'y a pas de roman là-dedans. Enfin, il n'y a pas de roman. En tout cas, moi, j'en voyais pas. Ce que je voyais, c'était une rencontre sur place. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, parce que peut-être que ça fait écho à des choses que j'ai vécues, mais quand il se trouve que, en tant que médecin, engagé dans l'humanitaire, tout ça, j'ai été souvent dans des pays en guerre, des pays troublés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée d'un occidental, de quelqu'un qui vient du monde libre, ce qu'on est dans ces pays, évidemment, c'est un événement. Et cette fille, pourquoi elle est nue dans son arbre, on va pas tout raconter, mais elle est là, c'est pas par hasard, et elle fait pas ça tous les jours.
Il y a un plan.
Elle est là parce que elle veut attirer l'attention, parce que c'est le seul moyen qu'elle peut avoir de se faire remarquer, parce qu'elle est.
Oui, parce que le village sait que des occidentaux sont en route.
Voilà, et on leur a dit, voilà, la veille, il y a un type qui est passé sur un bagnole en disant attention. Faut pas leur parler, c'est des agents du capital, etc. Faut pas en parler. Et elle se dit, le seul moyen, c'est de créer un scandale. Elle monte dans cet arbre et il y a cette scène, en effet. Pourquoi parler d'amour comme ça? Parce que, si vous voulez, c'est d'abord un début que je trouve extrêmement, enfin, pour moi, vraisemblable, parce que c'est quelque chose quand même que j'ai vu. Peut-être que je l'ai vécu un peu moi-même, mais je l'ai vu aussi beaucoup autour de moi. C'est-à-dire que c'est une rencontre dans laquelle il y a non seulement la rencontre de deux personnes, mais la rencontre de deux mondes. C'est-à-dire qu'ils viennent de deux mondes différents. Elle est vraiment au fond de cette espèce de terrible vie de la Russie post-stalinienne, si vous voulez, enfin, de l'Ukraine en l'occurrence, mais de l'Union soviétique. Et puis lui, c'est au contraire les 30 glorieuses des années 50, etc., et la liberté. Voilà. Et donc, ce qui se rencontre là, c'est pas seulement deux consciences, deux personnes, c'est en contact deux mondes et deux cultures.
Ma question portait sur le mécanisme du roman, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre de deux cultures, mais néanmoins, vous choisissez de la traiter par une réflexion sur l'amour et même sur les péripéties amoureuses, par ce conte, par cette espèce de figure presque mythologique de gens qui divorcent, qui se remarient, mais avec la même, en fait, c'est ça la...
Oui, ben parce que, alors ça, c'est autre chose, mais d'abord, vous parlez de théoriser tout ça, mais moi, je reviens à ce que disait Jean-Thélie tout à l'heure, c'est-à-dire que la notion de plaisir, elle est d'abord là, c'est-à-dire que c'est d'abord une histoire. C'est pas une théorie de l'amour, c'est une histoire. Donc, je raconte des mariages, des rencontres, des séparations, etc., parce que c'est ça qui fait le récit. Bon, après, on peut en tirer peut-être, effectivement, des conclusions
théoriques. Il y a des usages, hein. Si l'on veut bien considérer que leur vie commune était un être particulier, fait de leurs deux personnalités en fusion, donc 1 plus 1 égale 3, on pourrait en tirer des leçons.
Oui, parce que, si vous voulez, ça fait partie de ces couples dans lesquels vous pouvez raconter l'histoire de l'un, l'histoire de l'autre, mais il manque quelque chose. C'est en fait l'histoire des deux, qui est une histoire propre. C'est finalement, il y a les moments où ils ont été seuls, et puis il y a les moments où ils ont été ensemble, et qui constituent vraiment une histoire à part, quoi. C'est une sorte d'être particulier qui est fait de leurs deux vies. Voilà. Alors, cette histoire de mariage à répétition, bon, là encore, ça fait un peu écho. Moi, je me suis marié plusieurs fois avec la même femme. Enfin, bon, je suis incapable de raconter ça, enfin, de le raconter dans le détail, parce que je trouve ça très impudique. Je suis pas capable de raconter ma vie dans un livre. En revanche, à travers la fiction, on peut dire pas mal de choses. Et quand vous êtes marié plusieurs fois avec la même personne, et que vous dites ça, ça fait rigoler tout le monde. Parce que, bon, tu es marié plusieurs fois, c'est ridicule, machin. Bon. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est la logique de tout ça. C'est pourquoi, à certains moments, et moi, je trouve que ça, je vois ça de plus en plus autour de moi, hein, avec l'allongement de la vie, etc. Les gens qui se séparent, qui se retrouvent, qui se remettent ensemble, etc. Pourquoi l'amour peut être aussi quelque chose qui se décline comme ça dans la séparation, et pas uniquement dans la fusion, on est tout le temps ensemble. Non, bah, y a des gens qui vivent des choses très intenses et qui n'arrêtent pas de se déchirer, de se retrouver, de se remettre ensemble, etc. Bah, c'est leur cas. Voilà.
Vous avez utilisé le mot montrer, je voulais montrer. Pour vous, un roman a aussi vocation, enfin, il est au service d'une démonstration. On a l'impression, en vous écoutant, que vous cherchiez par le roman, par la fiction, à démontrer quelque chose qui vous était arrivé. Presque à recourir à la fiction pour trouver une explication.
Non, mais il y a cette dimension qu'on disait pour Simenon, vous savez, d'autobiographie éclatée. Hein, je crois que c'est Pierre Assouline dans sa biographie de Simenon qui disait Simenon a mis sa vie dans tous ses bouquins. C'est-à-dire qu'il a éclaté sa biographie, sa propre autobiographie. Il l'a jamais... Enfin, il l'a raconté dans Pédigret ou dans quelques livres, mais enfin, il l'a surtout éclaté, c'est-à-dire qu'il y avait de lui partout. Mmh. Bon. Et je pense que c'est comme ça, c'est-à-dire que pour qu'un livre vive, il faut qu'on soit dedans, faut que sa vie soit, sa propre vie, celle de l'auteur soit dedans. Mais en même temps, quand c'est mon cas, on peut pas la raconter parce qu'on n'arrive pas à dépasser ce stade, j'allais dire, de pudeur ou de timidité peut-être.
Et d'implication des autres aussi peut-être.
Voilà, et d'égard pour les autres. Eh bien, il faut recourir à autre chose. Et ce décalage de la fiction, moi, en racontant leur histoire à ces deux-là, je me suis totalement... Enfin, j'ai totalement puisé dans ma vie. C'est vrai que, si vous voulez, cette rencontre avec... Alors, c'est pas... Encore une fois, ça veut pas dire qu'on peut prendre les choses terme à terme en disant « Ah ben, vous avez vécu ça ». Non,
Mais bon. Comment vous travaillez? Parce que, on a dit... Vous avez parlé à l'orée de cette émission de d'aller puiser justement dans des époques que vous avez vous-même traversées. Mais comment se construit un de vos romans? Une fois que vous avez trouvé cet épisode russe là dont vous nous parliez, ces petits voyageurs là dans un livre que vous trouvez qui appartenait à votre mère, ensuite est-ce que tout ça se fait d'un trait? Comment ça se construit en fait?
Moi, j'enlève les échafaudages après et je les détruis. Je vois plus très bien forcément comment j'ai fait. Mais au départ, si vous voulez, il y a vraiment une sorte de principe, c'est-à-dire l'idée centrale de qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, c'est pas forcément à ça qu'on aboutit d'ailleurs. Mais enfin bon. Donc, en l'occurrence, ce couple avec ses rencontres et ses séparations, ses retrouvailles sur 50 ans. Bon, voilà. Ça, c'est le cadre. Après, moi, je fais pas de plan détaillé. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que je pars un peu à l'aventure, mais je fais quand même des actes, comme dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire que je dis, en général, je fais 5 actes. Je me dis, bon, premier acte, il va se passer ci, deuxième acte, il va se passer c'est ça, troisième acte, il va se passer ça. Donc, ça me guide, c'est-à-dire je sais à peu près où je vais, je ne suis pas complètement dans le bleu, et en même temps, c'est pas suffisamment serré et précis pour que ça me laisse l'envie d'écrire, parce que s'il y a un plan détaillé et qu'il faut juste suivre le plan détaillé, voilà, à quoi bon, quoi. C'est-à-dire qu'il faut garder de l'envie, si vous voulez. Voilà.
Il y a un artifice romanesque et ce narrateur hein, qui enquête sur Ludmila et Edgar, qui s'est documenté, comme vous l'avez fait vous-même, ça m'a fait penser aussi un peu à ce personnage en fait d'observateur, de voyeur, justement des héros un peu comme Nick Carraway dans le Great Gatsby de Fitzgerald, qui regarde justement ces heureux et malheureux du monde en même temps. Est-ce que vous lisez quand vous écrivez? Est-ce qu'il y a des livres derrière, des livres un peu parrains que vous avez lu pendant que vous écriviez ces 7 mariages?
Oui, alors j'essaie de pas... Je pourrais pas faire comme vous, Christophe, et lire autant de livres, j'allais dire, contemporains, nouveaux, etc. Je me concentre beaucoup, moi, quand j'écris un livre, sur des livres que j'ai déjà lus, parce que je peux pas être trop perturbé quand on est dans son petit univers, là, et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Moi, j'écris les livres assez vite. Je sais que pendant cette période-là...
C'est-à-dire c'est en...
Oh, ben, en 2 mois, quoi. Enfin, il faut que ça sorte d'un seul coup. J'aime bien que les livres sortent. Mais par exemple, là, j'ai relu, je m'ai accompagné pendant ce livre, le roman de Pasternak, Docteur Jivago, que j'aime énormément et qui est un... c'est pareil, c'est une espèce de road movie ou de rail movie amoureux finalement avec j'ai trouvé dans ce livre sur les descriptions, sur la scansion des différentes phase de leur vie, des choses qui me guidaient, ça allait bien avec ce que je voulais faire. Voilà. Donc dans ces cas-là, j'ai une espèce de livre fétiche. En plus, il est suffisamment gros pour qu'on puisse y rester longtemps. Et puis
qui accompagne l'écriture. M'accompagne, voilà. Bon, j'aimerais qu'on vous entende lire un extrait. Alors c'est un Ludmila a réservé. Voilà, c'est juste avant. D'ailleurs, juste avant ou après. D'ailleurs, le divorce, je ne sais plus. Il y en a trop. Cabaret russe où on croise Joseph Kessel. Et où on va voir aussi que cette histoire aussi est marquée par un certain excès aussi.
Ouais, alors ils se sont mariés la première fois quand il l'a sorti de Russie. Et ensuite, ils se sont séparés. Et c'est une séparation qui s'est faite à son initiative à elle, parce qu'elle trouve qu'elle ne veut pas rester dans cette position de la fille qui a été sauvée et qui doit quelque chose à l'autre. Et elle dit, on va arrêter d'être mariés. Comme ça, tu verras que si on reste ensemble, ce n'est pas pour le mariage. C'est vraiment parce que je t'aime. Voilà. La tension retombait d'un coup. Edgar sentait un vertige, presque une nausée. Il dit plus tard qu'une digue en lui s'était rompue ce soir-là. Il se poussa sur le coussin du divan pour être à côté de Ludmila et passa son bras autour de son épaule. Puis il cacha son visage dans le cou de la jeune femme, comme un enfant qui cherche une protection. Elle entoura sa tête de son bras, caressa ses cheveux en désordre. Edgar a toujours prétendu qu'il n'avait pas pleuré ce soir-là. Mais à condition que je promette de ne pas le répéter, Ludmila n'a pas hésité à me confier qu'elle avait senti des larmes couler dans le décolleté de sa robe. Les musiciens avaient compris d'eux-mêmes l'urgence d'intervenir. Ils s'étaient placés en cercle autour du couple et avaient commencé à jouer des mélodies joyeuses. Edgar s'était ressaisi. Il tenait Ludmila par la taille et de temps en temps l'embrassait sur la bouche. À un moment, elle se leva, sans quitter Edgar des yeux. Le restaurant était déjà bien rempli, on avait vu passer Kessel avec une grande femme brune. L'acteur Pierre Fresnay l'avait rejoint et bien d'autres visages célèbres. Les conversations étaient animées, mais soudain se turent. Ludmila s'était mise à chanter, accompagnée par les violons. Les musiciens l'entraînèrent dans la salle, Edgar la regarda s'éloigner. Il vit les regards brillants tournés vers elle, sa voix claire, riche, faisait entrer dans les cœurs une joie sombre et une envie sauvage de vivre. Les écailles tombées des yeux d'Edgar lui laissaient voir jusqu'à l'aveuglement combien cette femme rayonnait, quelle force il y avait en elle et avec quelle intensité il l'aimait. Elle revint vers lui, cessa de chanter et tomba dans ses bras tandis que la salle applaudissait et criait de bonheur. Puis ils mangèrent, burent, portèrent des toasts et s'embrassèrent jusqu'à si tard dans la nuit qu'ils ne gardèrent aucun souvenir de la fin de cette soirée. Ludmila avait gagné son pari, ce divorce les rapprocha plus que tous les mariages passés et à venir.
Voilà, c'est pour ça que je parlais de leçons, peut-être, Jean Tellet. Vous avez, Jean Tellet, un livre aussi qui accompagne l'écriture du vôtre.
Ah je lis rien du tout. Non, déjà, moi, je lis peu de romans. Mmh. Et surtout pas quand j'écris. Je passe ma journée à écrire. Quand j'arrive, je rentre à la maison le soir, je dis, pour me changer, tiens, je vais me lire un roman. Puis,
parfois, ça peut aussi activer le moteur ou le reposer.
J'en lis pas aussi parce que je crains de tomber sur un écrivain que je me mette à aimer beaucoup, et à préférer lire ses livres qu'écrire les miens. Le problème que j'ai, c'est la poésie, moi, Rimbaud, Villon, Verlaine.
C'est la Sainte Trinité.
Voilà. Jamais j'écrirai un poème. Le premier vers que j'écrirai en le relisant, on dit à côté des autres, c'est autant que je repose le stylo tout de suite, quoi. Mais j'essaye de lire, en revanche, entre chaque roman, maintenant, je m'oblige à lire un classique. Alors là, après Guerre à loup, je connaissais évidemment l'expression, la peau de chagrin, tout ça. Je me suis dit, j'ai jamais lu ce truc de Balzac, j'ai voulu lire. J'ai trouvé ça emmerdant. Mais emmerdant.
Quoi? Ah oui.
J'ai trouvé ça vraiment casse-burne. Et alors, je me suis dit, je vais en lire un autre. Et venait de sortir la nouvelle traduction de 1984.
Oui.
J'ai lu ça, j'ai adoré.
Elle est venue ici, la nouvelle.
Et j'ai trouvé ça vachement bien, que c'est pas une réputation usurpée.
Il y a eu des débats, d'ailleurs, sur cette nouvelle traduction, dès qu'on touche à quelque chose. Alors, Jean Tellet, dans Gare à loup, alors on est loin, d'ailleurs, de vos romans historiques, un peu transformés, comme Le Montespan, comme Entrer dans la danse, comme Rainbow pour Rimbaud, ou Héloïse Houille, sur Héloïse et Abélard. On est plutôt dans le futur, vu la taille des tours que vous décrivez, que vous appelez des écorches-cieux.
Ouais.
C'est ça. Donc, dans une ville à la fois poétique et déprimante, mmh. une ville à la Ubu ou à la Boris Vian. Si on pourrait imaginer aussi du Boris Vian se promener dans cette ville. On est avec une petite fille qui est élevée par sa mère au 200e et quelques...
276e étage de la tour de l'incendie.
Merci pour la précision. Donc oui. La tour de l'incendie, elles sont pauvres toutes les deux, mais la petite est riche d'un don précieux. Quand elle veut du mal à quelqu'un, eh bien, ce mal opère et ce don va intriguer, et plus qu'intriguer, ils vont vouloir se l'accaparer. Évidemment, qui ? Les puissances de l'État. Alors, j'adore ce palais présidentiel que vous inventez, une sorte de boule à neige géante, avec de la fausse neige en plus, ouais. Et un président, alors, qui est élu à vie, hein, ouais. Évidemment, hein, pourquoi se priver, qui s'appelle Hannibal
Chanchou.
Voilà, ça...
Il est hypochondriaque et, voilà. Et au contact de l'eau, ça va pas s'arranger.
Voilà. Ouais. En fait, il passe son temps à se prendre la température.
Voilà. Et puis, comme je racontais tout à l'heure qu'il y avait le sable comme ça qui a rasé tout, le palais présidentiel qui ressemble beaucoup à l'Élysée se trouvait abîmé.
Enfin, beaucoup, oui.
Et donc, ils ont décidé de lancer un concours international d'architectes pour protéger le palais présidentiel, et c'est un architecte inuit qui a gagné le concours avec
inuit,
son
projet. Inuit, hein, pas inuit. Enfin, inuit aussi, d'ailleurs.
Ouais. Avec son projet de boule à neige. Et donc, quand les voitures arrivent pour rencontrer le président, ça fait envoler les particules blanches qui sont sur le sol, et tout ça tournoie dans la boule à neige. Et je trouve que symboliquement, j'entends souvent les gens qui disent « Ah ouais, mais les gens de pouvoir, de toute façon, ils connaissent pas la réalité, ils vivent dans leur bulle et tout. »
C'est une cloche.
Et ben là, il y est vraiment, quoi. Ouais.
Alors, je raconte pas trop, mais en fait, Lou, évidemment, est enlevé, parce qu'il faut essayer d'utiliser, hein, pour en faire une sorte d'arme atomique suprême contre les puissances qui menacent ce petit État, hein, ouais. Qui n'a plus de nom, je ne sais
non,
plus.
Non, il n'y a pas de voilà, nom, il n'y a jamais de nom.
Non, parce que les autres ont un nom, hein, l'archipel des mille cavernes, la Chine-Inde.
Il y a la Chine-Inde, ouais.
Parce qu'il y a aussi une certaine mélancolie dans ce film, mais d'abord, vous allez... Comment ça se passe? J'ai posé la question à Jean-Christophe Ruffin, mais comment tout ça naît, cette boule à neige? Est-ce que c'est au fil de la plume, de vos agapes de la veille?
Sur ce livre-là, et je crois que ça m'est jamais arrivé à ce point-là, quand j'ai commencé à l'écrire, je savais pas très bien où ça allait. Et tout d'un coup... Je dis pas ça sous l'emprise de la drogue, mais j'étais à l'écoute du livre.
Ça fait rire,
j'avais l'impression que c'est le livre qui me dictait ce que je devais écrire. Ce qui fait que quand j'avais mon éditeur au téléphone, j'ai dit, tu sais, tu me payes comme écrivain. Mais en fait, je suis d'Aquilo.
Mais la boule à neige, par exemple. Parce que vous vous souvenez de Usual Suspects, voilà, ce film où finalement on s'apercevait que tout était inventé en fonction de ce que le narrateur, parce que c'était un interrogatoire de police, trouvait un peu sous les yeux, une affiche, un mug à café, le nom qui était sous le mug à café, la boule à neige, les trois généraux, les corcheux.
Je me disais, je me fous la paix. Il y a deux trucs que je m'étais interdit pour ce livre.
Je me suis dit,
ça serait un livre, il n'y aura pas de gros mots. Alors que moi, j'ai pu être très grossier dans...
Dans cette émission, d'ailleurs.
Très grossier. Et là, je m'étais dit, ça serait un livre sans gros mots, et il n'y aura pas un mot sur la religion. Mais même pas pour en dire du mal. Il n'y aura pas une rue Saint-Machin, il n'y aura pas un temple. Et là où je me suis aperçu que c'était compliqué, je me suis dit, mais même dans les phrases de tous les jours, il n'y aura pas une référence, il n'y aura pas enfer, paradis, il n'y aura même pas, je vous en prie, des trucs comme ça. Raconter un monde, il n'y a pas de religion. Bon sang, que ça fait du bien, que ça soulage. Et c'est pour ça que je pensais à la chanson qu'on risque d'entendre, celle de Souchon. Et si, en plus, il n'y avait personne?
On l'écoute.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Abderrahmane, Martin, David, et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus personne. Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide, il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus
et si en plus il n'y a personne, Alain Souchon, c'est le choix de Jean Tellet qui publie Gare à Louche et Julliard. Il est avec Jean-Christophe Ruffin, Les Sept Mariages d'Edgar et Ludmilla chez Gallimard. Vous avez expliqué pourquoi ce choix musical, mais vous voulez peut-être en dire un mot. Ah, il y a une ambiance boule à neige un peu. Hein,
d'ailleurs. Oui, mais cette chanson est magnifiquement écrite, et puis c'est vrai quand il dit que toutes ces religions, c'est marrant d'ailleurs, les gens qui croient, moi j'ai rien contre, c'est pas pour les insulter et tout, mais ils croient, après tout on croit à ce qu'on veut, mais il faut que les autres croient comme eux, et ça me stupéfait, et cette chanson je la trouve absolument formidable, et je trouve que c'est bien de décrire un monde où il n'y a pas de religion, tout a disparu, et c'est même pas ça a été, il n'y en a pas.
Tout a disparu, ça pourrait être aussi une phrase de votre livre, puisque Lou, cette petite fille, a même le pouvoir de faire disparaître, quand des ennemis de l'État dans lequel elle vit s'en prennent justement à cet État, et je voudrais qu'ils disparaissent tous, et bien il y a plus, c'est pas qu'ils meurent.
Exactement.
C'est qu'ils ont disparu.
Oui, oui. Il y a un pays qui s'appelle le Thaïkamb et tout, et puis mais c'est un malentendu, c'est parce qu'on lui parle de ça, on dit, tu comprends, il y a un pays qui s'appelle le Thaïkamb, ils n'arrêtent pas de nous gonfler et tout, ils veulent nous attaquer et tout ça, il faudrait que tu fasses quelque chose. Et elle est en train de râler après ses boutons d'acné, et puis en crevant un, elle dit qu'ils disparaissent tous.
Mais
elle parle
ça
de ses boutons d'acné. Et total, le lendemain, on vient annoncer au président. Alors, monsieur Hannibal Chanchou, je vais vous dire un truc, un truc qui paraît pas vrai. Il n'y a plus d'habitants au Thaïkamb. Comment ça, il n'y a plus d'habitants? Ils ont été bombardés, mais par qui et tout? Non, il y a, mais où ils sont? Je ne sais pas, il n'y a pas d'exode de population. Il n'y a plus personne.
Vous seriez très bon dans au milieu des Oulipiens, vous savez, le Louvois de littérature potentielle. Voilà. On se donne des contraintes et puis on y va. C'est un peu ça. C'est vrai qu'on rit beaucoup et puis il y a des moments vraiment d'une intense poésie comme cette pluie de roses, parce que c'est vrai, quand on dit je voudrais que quelqu'un soit couvert de roses.
Eh bien oui, là c'est encore un malentendu, parce qu'on réveille Lou très tôt le matin en disant le président a une directive à te donner. Et elle est râle, elle dit celui-là, je voudrais que... Et puis là, on continue en lui disant qu'en fait, le président va très bien se conduire avec sa mère. Alors elle veut transformer la phrase et elle dit, je voudrais qu'il soit couvert de roses. Voilà. Sauf que il l'est vraiment. Et que dans son bureau, voilà, à un moment, ce que je dis. Il en chute des lambris de plein bouquet par ébouli. Du foyer de la cheminée, tiges, feuilles, pétales, épines de rose éruptent en une lave énorme sans discontinuer. La violence de l'amas formidable qui s'entasse bascule le dos du fauteuil d'Hannibal Chanchou, se trouvant étalé sur son bureau parmi ses aiguilles d'acupuncture. Alors ça bondit les fleurs par-dessus lui, le piquant, le griffant, l'écorchant passage. Les guéridons, les fauteuils, le canapé servant aux réunions ne sont bientôt plus visibles. Le niveau de rose accumulé monte et monte encore. Le voilà à hauteur d'homme, s'est assis noyé, englouti, le chef de l'État se lève, se débat à l'intérieur d'un orage de pistils et de tourbillons d'épines en cherchant la double porte de son salon doré à tâtons. Il parvient à entrouvrir la première capitonnée pour se glisser dans l'entrebâillement, puis c'est au tour de la seconde. Cornelia aux cheveux mauves, Cornelia c'est sa secrétaire, Cornelia aux cheveux mauves, sortie de son bureau adjacent, le découvre sur le palier, visage et mains constellées de milliers de perforations, d'où dégoulinent des filets de sang sur la veste et le pantalon de son costume entièrement déchiré. « Oh, monsieur Hannibal Chanchou, mais on ne peut pas se piquer partout comme ça, ce n'est pas possible. Dans quel état vous vous êtes mis ?» Le président écarlate à la chevelure noire, encore plus hérissée que d'habitude, se trouve soutenu par des huissiers et maîtres d'hôtel venus à sa rescousse tandis qu'il s'emporte. « J'avais ordonné qu'on ne lui parle jamais de moi. Je l'avais dit, vous étiez là, Cornelia. Elle va m'avoir refilé le tétanos. Je vais déclencher des infections. Et pourquoi aussi ces bourrasques de flocons que je vois tournoyer par la fenêtre ? Votre visiteur arrive. Effectivement, dans la cour d'honneur, un cortège de voitures officielles roule, faisant volter des paillettes blanches et se gare. Prince Désir, vêtu d'une traditionnelle tenue d'apparat comme là-bas, descend de son véhicule pendant que celui venu lui ouvrir sa portière l'informe, désignant la façade du palais. Le bureau d'Hannibal Chanchou se situe derrière la grande fenêtre du premier étage. C'est alors que les vantaux de la susdite fenêtre du salon doré s'écartent totalement sous la pression des roses. En jet, elles s'épandent vers les autos du cortège. Il n'y a pas à dire, c'est un pays qui sait recevoir, reconnaît l'empereur de l'archipel des mille cavernes, juste avant de se débattre lui aussi en compagnie de ses gardes de corps sous une colline de roses.
Je voyais rire, Jean-Christophe Ruffin.
Non, c'est formidable. Mais il y a le côté Boris Vian, là. C'est,
oui. J'avais lu L'écume des jours à 15 ans, mais ça avait été un choc.
Ouais.
Je m'étais dit, ce livre, pour moi, c'est même pas un livre, c'est une porte. Je m'étais dit, donc, on peut faire ça.
Ouais.
Donc, on peut être libre comme ça.
Un petit mot sur la langue que vous choisissez. Je lis un autre passage. Appareil dentaire tout à l'heure installé, lui faisant un peu mal et encore vaguement sonné par son enlèvement étourdissant à la sortie de chez le dentiste, sans compter qu'il est déjà tard. Lou va s'avachir au creux du pouf défoncé près de la fausse baie vitrée qui diffuse en direct via satellite un paysage urbain et nocturne qu'elle connaît. Vous vous amusez aussi à perturber l'ordre des choses.
Oui.
Vous retravaillez beaucoup vos phrases.
Je les relis pratiquement à voix haute chacune. Et si j'arrive pas à l'articuler, c'est qu'elle a un problème. Et puis c'est comme ça que j'avance, quoi.
Voilà. Bien, merci beaucoup,
Jean
Tellet.
Merci à vous.
Vous, Jean-Christophe, vous disiez tout à l'heure que vous aviez envie que ça aille vite, hein, en 2 mois. Il y a beaucoup aussi de retravail, de coupe.
Après, oui, mais je trouve que l'écriture, faut que ça soit une espèce de grâce. C'est comme un avion. Les escales, ça fait beaucoup de mal parce qu'il faut redécoller après. Là, le livre que je suis en train de terminer là en ce moment, au milieu, j'ai dû m'interrompre 15 jours, partir en Amérique du Sud. Et ça a été un travail fou pour remettre tout dans la tête, pour repartir. Et là, voilà.
Au moment du retravail, on supprime les escales, les effets des escales.
Non, mais je pense que le premier.
Pour garder la grâce.
Ouais, la grâce, elle doit permettre une première ébauche assez complète, assez aboutie. Puis après, on peut travailler au petit point, mais sur quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas laisser des trous, les revenir. Il faut que le livre soit là, puis après, on peut toujours fignoler. Voilà.
Très bien. En tout cas, bien recevoir, hein, c'est la leçon de cette émission, bien recevoir ses lecteurs.
Oui, c'est pareil, mais quand j'écris un livre, il faut l'écrire en état d'hypnose. Moi, je m'interdis la moindre journée, pas un jour de vacances, pas un jour de week-end, tout le temps que le livre n'est pas terminé. Et après, pendant 6 mois, je ne peux plus tenir un crayon.
Ouais. Pareil, la même chose, exactement.
Eh bien, merci. On reviendra dîner chez vous.
Oh oui.
Hein, voilà, merci Jean Tellet.
C'est bien content.
Merci Jean-Christophe Ruffin. Je rappelle le titre de vos livres, Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, c'est chez Gallimard. Jean Tellet, Gare à Loup, c'est chez Julliard. Merci à vous.
Merci à vous.
Le Temps des Écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Bruno Mourlan à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, Twitter, podcaster sur franceculture.fr pour nous réécouter à l'infini, réécouter surtout Jean-Christophe Ruffin et Jean Tellet.